Bon matin à tous.
On continue notre série dans les psaumes. Donc, on va étudier ce matin le psaume 3. C'est un magnifique psaume. Je n'avais pas nécessairement regardé ce psaume en profondeur. C'est un psaume qu'on lit des fois dans une série 1, 2, 3, 4, qui n'est pas nécessairement un psaume qui ressort, ou un psaume comme le psaume 1 que j'ai appris depuis que je suis tout jeune, ou le psaume 19. Mais Dieu a inspiré sa parole et on trouve Dieu dans chaque verset. J'ai été, en anglais on dit flabbergasté, là, en bon québécois, flabbergasté encore une fois, par ce qu'on peut trouver dans chaque verset de la parole de Dieu. Et le chapitre 3 de Psaume est un magnifique psaume d'adoration, encore une fois, à l'Éternel. Il m'a ouvert les yeux sur différents points et j'ai appris énormément et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, ce matin, nous allons étudier le chapitre 3 et vous pouvez tourner dans vos Bibles. La semaine passée, Richard nous enseignait sur le psaume 90, qui était dans le chapitre, ou je devrais dire dans le livre numéro 4. Donc, les psaumes ont été divisés en 5 livres, le psaume 90 étant dans le quatrième, et ce matin, on est dans le premier. Vous dites, « Ah, mais pourquoi le premier? » Oh, et là... Donc, le premier livre, le chapitre 3, et le premier livre va du premier livre, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 41. Dans le quatrième livre, Richard nous parlait que le fil conducteur ou l'idée générale comme thème était « Dieu règne partout ». Et le psaume 90 était un psaume de Moïse. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé le verset 2 qui disait « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Quel beau passage! Avant de continuer, prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est d'actualité. Aujourd'hui, elle nous transforme encore. Et je te prie que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos esprits à ta parole et que, encore une fois, aujourd'hui, je puisse être transformé par ta parole. Je te prie pour tous ceux qui sont ici, ceux qui ont des joies, ceux qui ont des peines. Touche leur cœur, rapproche-les de toi, en ton nom. Amen. Donc, le psaume 3, pour lui donner un peu de contexte, se trouve, comme j'ai dit, dans le premier livre. Le chapitre 1 et 2 s'inscrivent comme des introductions. Ils ne font pas partie du premier livre, donc ils font partie d'une introduction déclarant que Psaume est un livre de prière pour ceux qui attendent le Messie à venir. Donc, c'était le thème. Le thème du premier livre, lui, est la fidélité de Dieu. Quel beau thème! Et ce thème, on va le voir même dans notre chapitre un peu plus tard. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la fidélité de Dieu dans ma vie est un point majeur. Le fait que je ne peux rien faire pour changer ses promesses. Il me promet d'être toujours mon Père céleste, celui qui ne dort jamais et veille sur moi. Nous allons voir ce thème et d'autres dans le passage. Pour commencer, je vous invite juste à lire le titre. Je sais que vous avez probablement lu peut-être le chapitre au complet. Ce n'est pas grave, mais lisons le premier verset. Psaume de David quand il fuyait Absalom, quand il fuyait devant son fils Absalom. Pour vous rappeler, nous avons vu cette histoire il y a quelques mois, donc ça vous a peut-être fait un son de cloche. Et l'idée, c'est que Absalom se rebelle contre son père et il veut rentrer dans la ville de Jérusalem. David décide alors de ne pas le confronter, mais de fuir. On peut voir cette histoire dans 2 Samuel 15 à 19. Bon, ce matin, pour le temps, je ne vais pas lire 15 à 19, mais vous pouvez lire comme, peut-être une autre fois, comme référence pour vous rappeler exactement les détails de tout ce qui s'est passé. Donc, David, avec une grosse délégation, décide de partir de Jérusalem et au verset 30 de 2 Samuel 15, nous voyons un peu comment David se sent. David prenait la montée des oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, il marchait nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient la tête et il montait en pleurant. C'est dans ce contexte que David va tourner vers l'Éternel, et lui exprimer comment il est en train de souffrir. Imaginez-vous, vous devez quitter la ville sainte parce que votre fils s'en vient avec une armée pour vous détruire. Avant de continuer, je vous donne un petit scoop. Et là, c'est bon. Le mot « Selah ». Un mot qui va définir le style de ce chapitre. Bien que nous n'ayons pas lu tout le chapitre, si vous avez promené vos yeux, vous avez vu 3 fois le mot « pause ». Ce mot n'a pas été ajouté par les traducteurs, je dois vous le dire. Ils n'ont pas été ajoutés par les traducteurs français. Ce mot est inclus dans le chapitre par l'auteur. En fait, comme c'est écrit, le mot en hébreu est « Selah ». C'est quoi son origine? Je dois vous dire qu'il n'y a pas de consensus sur ce mot. Le mot peut arriver dans le milieu, le mot peut arriver à la fin du chapitre. Malgré que ce mot arrive 71 fois dans Psaume et 3 fois dans Habacuc, l'étymologie et la signification restent incertaines. Il y a un point commun, par exemple. Il y a un point commun qui peut aider à lier l'idée que ce mot pourrait porter. C'est que dans 31 des chapitres, le mot « Selah », ce chapitre va être adressé au chef des chantres. Donc, comme dans Psaume 21, au chef des chantres, psaume de David. Donc, ce que les experts se sont accordés pour dire, c'est que les psaumes où cela est présent sont majoritairement des chants, parce qu'ils sont adressés à un conducteur de chorale. Il a donc été conclu que cela doit dicter une partie de la structure du chant. Voilà pourquoi les traducteurs francophones ont choisi d'écrire « pause ». Longue parenthèse pour arriver à notre chapitre. Que savons-nous? Nous savons que David a écrit ce passage dans un moment difficile, et il ne l'avait pas adressé directement à quelqu'un d'autre. Ce qu'il veut dire est très personnel. David a exprimé sa pensée à Dieu de façon très profonde, mais avec vigueur. Cela a donné qu'il a introduit ce chapitre dans la culture hébraïque. Donc, David écrit ce chapitre personnellement à Dieu. Ce chapitre est tellement bien pour la culture, au moment où il l'écrit, que ça devient un chant, un entonnement militaire. Donc, dès que les gens voulaient partir en conquête, ils chantonnaient, ils entonnaient ce chant ensemble. Ensuite, c'est devenu un chant qui est entré dans la culture générale et ce chant est devenu le chant du matin. Pour nous, en 2025, on n'a pas une série de places où est-ce qu'on est dédié à devoir chanter un chant. On n'a pas des institutions qui disent « OK, le matin, vous devez chanter ceci ou cela ». Mais dans la culture hébraïque, le matin, ils chantaient un chant. Et ce chapitre 3 est devenu le chant du matin. Je fais une petite parenthèse, le chapitre 4 est devenu le chant de l'après-midi. Donc, on avait le chapitre 3 et le chapitre 4 dans la même journée. Je ne parlerai pas du chapitre 4, on va se concentrer ce matin seulement sur le chapitre 3. Alors, si le verset 1 et le mot « Selah » nous donnent un peu de contexte sur ce chapitre, qu'est-ce que le chapitre lui-même nous enseigne? Lisons-le ensemble pour continuer. Psaume 3, 1 à 9. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux qui disent à mon sujet « Point de salut pour lui auprès de Dieu ». Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel. Il répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui, de toutes parts, se sont mis contre moi. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue mes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Dans ce chapitre, David a la tête basse et il pleure. On l'a vu dans Samuel. Il s'est également couvert la tête. Nous voyons évidemment qu'il ne vit pas un moment parfait. Pas du tout. Et le chapitre va commencer par le fait qu'il exprime sa situation à Dieu. Mais ça ne va pas s'arrêter à une complainte. Il va tourner ses regards et son attitude va changer drastiquement. La conversation qu'il va avoir va changer drastiquement. Bien que le chapitre semble être coupé en trois parties, je vais le couper en quatre parties. Donc, le psalmiste se plaint de sa difficulté. Ensuite, il exprime sa confiance en la capacité de Dieu à exaucer les prières. Le psalmiste est entièrement confiant à Dieu. Et on va terminer par « Il prie que Dieu lui accorde la victoire ». Commençons par le verset 2 et 3. « Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. » Nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. On voit tout de suite que le psalmiste se plaint de sa difficulté. Tout de suite, on peut voir que David, qui est dans la souffrance et qui crie à Dieu, le premier mot qui sort est quand même éternel. Malgré qu'il soit mal, il sait à qui il peut exprimer sa tristesse. Rappelons-nous que ceci est un chant. Alors, il y a de la répétition. David va utiliser une répétition du mot « nombreux ». on voit la progression qui va culminer à une affirmation. Ses adversaires disent « point de salut pour lui auprès de Dieu ». David semble croire que ses adversaires s'attaquent à lui car il croit que Dieu l'a abandonné. Pour ses adversaires, David est faible et il voit une opportunité de le conquérir. Au verset 3, les traducteurs de la Colombe ont choisi le mot « salut », qui est une très bonne traduction en passant. Je suis pas en train de me mettre comme s'ils n'avaient pas la bonne traduction. Mais le mot porte aussi d'autres significations qui peuvent aider ici, comme le mot « victoire ». Le mot qui est surtout utilisé en anglais, ce qui donnerait « point de victoire » pour lui auprès de Dieu. En regardant les circonstances, David est en train de vivre un moment épouvantable, qui pourrait le pousser à croire que, même lui, pourrait le pousser à croire que Dieu l'a abandonné. Il voit toutes les armées qui se dirigent vers lui pour le tuer. Tuer lui et tous ses compatriotes, parce qu'il n'était pas parti tout seul. On peut même, jusqu'à un certain point, sentir la progression de ses phrases. Il voit une armée qui se dirige vers lui pour le tuer et il a peur. Le premier verset semble un peu plus loin. Il peut les compter de loin, compter l'armée qui s'en vient. Ensuite, il les voit se lever et venir vers lui. Et dans le verset 3, ses adversaires sont assez proches pour qu'ils les entendent dire « David n'est pas prêt à gagner la bataille. Dieu est loin de lui. » Est-ce que vous regardez les circonstances de votre vie et vous vous dites « Ouais, ce n'est pas facile. » Les événements s'empilent les uns par-dessus les autres, au point même où d'autres pourraient le constater. Qu'ils vous disent quelque chose comme « Ouais, ça pourrait arrêter, là, hein? » Est-ce que vous priez à Dieu à répétition et à répétition afin qu'il vous donne une victoire et vous avez de nombreux points qui vous font peut-être douter qu'il est là? Peut-être que c'est difficile avec tes enfants. Peut-être que tu as des incertitudes. Peut-être que c'est difficile à ton travail, des changements majeurs qui t'inquiètent. Tu as peut-être peur de perdre ton emploi. Peut-être que tu es malade et que tu attends pour d'autres résultats qui seront peut-être moins bons. Je ne dis pas qu'il faut être dans le fond du baril pour crier à Dieu. Pas du tout. On vit tous des circonstances plus ou moins plaisantes ou difficiles. Les exposer à l'Éternel comme David a fait quelque chose de très grand dans la vie de David. Il faut le faire comme David. Notre Papa Céleste nous écoute. Bien que mon sentiment, mes émotions, mon feeling ne le ressentent pas, il est présent, il écoute son enfant qui s'approche de lui pour lui parler. Je vais répéter ça. Il est présent et il écoute son fils qui s'approche de lui pour lui parler. C'est ce qui se passe avec David dans les trois premiers versets. On le voit comme un psalmiste qui se plaint, mais qui s'approche de son Dieu. Mais, quel mot intéressant que « mais ». dans le verset 4, c'est le premier mot de ce verset. Le premier mot de cette nouvelle section nous vient de ce mot. Dans le verset 4 et 5, David exprime sa confiance en la capacité de Dieu à exaucer les prières. « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Je vois un revirement de situation majeur, un changement de position et David lève les yeux instantanément. Ses yeux arrêtent de regarder ses ennemis et s'élèvent vers Dieu. On peut voir ce principe, ce changement à plusieurs places dans la Bible. Lorsqu'on regarde trop longtemps un ennemi, ils deviennent des superpuissances, des châteaux fortifiés. Dans Deutéronome 1:28, on peut lire la réponse que les espions ont donnée à leur retour de la mission. C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont les villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons vu même des fils d'Anak. Voici la réponse que Josué donne au verset 29. « Je vous dis, ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous. » David connaît son Dieu. Il utilise une illustration militaire pour montrer qu'il le protège de tous les côtés. Dieu est son bouclier. Il l'est pour lui comme il l'avait déjà été pour Moïse, dans Genèse 15:1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en ces termes. « Sois sans crainte, Abraham, je suis moi-même ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Ensuite, il continue avec une phrase magnifique. « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Qui fait référence au fait que David, dans Samuel, avait la tête couverte. Et il sait que l'Éternel va le délivrer de cette situation, que l'Éternel est celui qui doit être glorifié. David sait où regarder pour avoir cette victoire. Il y a aussi dans un contexte plus large une explication où la gloire doit revenir à Dieu car il relève notre tête, qui va signifier le mouvement du désespoir vers la joie. Un bon exemple se lit dans Luc 21:27. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance est proche. Pour moi, ce passage-là me donne beaucoup de paix. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai l'assurance que Christ est ma délivrance, alors je veux avoir confiance qu'il va répondre dans sa volonté et en son temps. La preuve est que David le mentionne dans le chapitre 5. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond. Excusez, dans le verset 5. À haute voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pour David, ce que cela signifie, c'est que Dieu va lui répondre. Pourquoi de la montagne sainte? C'est l'endroit où l'Éternel couronne son roi. On peut le voir dans le chapitre précédent, verset 6. « C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. David sait que l'Éternel va répondre. » Est-ce que toi, tu sais que Dieu va répondre à tes prières, à tes requêtes? Que ton Papa céleste veut que tu aies confiance qu'il va répondre pour sa gloire. Alors, qu'est-ce que nous avons vu? Le psalmiste se plaint de sa difficulté dans les versets 2 et 3. Il exprime sa confiance en la capacité de Dieu à exaucer les prières dans le verset 4 et 5. Maintenant, on arrive dans la partie du chapitre vraiment intéressante. Au verset 6 et 7, le psalmiste fait entièrement confiance à Dieu. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui, de toutes parts, se sont mis contre moi. Comment est-ce que je peux conclure cela? Eh bien, par l'expression que David utilise. Le sommeil, le dodo, dormir. Ah! C'est bon pour nous. Y a-t-il de quoi de plus fragile quand même que de dormir? Pour moi, une fois que je dors. Parce que je m'endors assez facilement. N'importe qui me connaît va vous le dire. Mais si je pense à quelque chose, mon sommeil ne sera pas bon. Je vais peut-être mal m'endormir. Puis je vais me réveiller dans la nuit, je vais sûrement rêver peut-être, je vais sûrement penser à différentes choses. J'avoue qu'à mon travail, si je dois faire des changements, peut-être que la semaine d'avant, je vais me réveiller à 3 heures du matin, puis là, ça se met à penser, je me mets à penser. Je ne sais pas si c'est votre cas, ça m'arrive. Mais ici, David nous montre par un exemple bien humain, à quel point l'Éternel est en contrôle, par le fait qu'il est capable de se coucher, de dormir et de se réveiller, car il sait que le Seigneur le soutient. Je crois que David aurait eu quand même une bonne raison de mal dormir. Je ne sais pas pour vous, si on regarde la situation, il vient de quitter Jérusalem dans une certaine honte, parce qu'il sait que son fils s'en vient. Il monte vers le mont des Oliviers et il prend la forme d'une personne qui souffre. Il veut montrer devant tous comment il souffre. Donc, ça se peut qu'il y aurait eu une bonne raison pour ne pas bien dormir. Et pourtant, on voit ici par ce passage qu'il dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel me soutient. » Si on regarde un petit peu la manière que c'est écrit, on peut aller aussi en disant « Je me suis couché, j'ai dormi et je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. » Il est en paix. Mais il arrive quand même à être en paix pour dire « L'Éternel me soutient ». Je ne vais pas dire une stupidité comme « Remets en perspective tes problèmes par rapport à ceux de David ». Non, on a des problèmes différents de David. Non, je vais plutôt vous encourager à pouvoir dire « L'Éternel me soutient, je ne crains pas les myriades ». Cela demande de la confiance, de la foi, une connaissance de Dieu, de ton Dieu, pour le faire. Et en même temps, le prouver en allant dormir en paix. David l'a fait. David était capable de dormir en paix. Donc, ce verset 6 et 7 montre à quel point le psalmiste avait une entière confiance en Dieu. Donc, on a vu au verset 2 et 3 le psalmiste qui se plaint de ses difficultés. Il exprime sa confiance et la capacité de Dieu à exaucer les prières dans le verset 3 et 4. Et dans le verset 6 et 7, le psalmiste fait entièrement confiance à Dieu. Regardons ensemble la dernière section des versets 8 et 9. « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tes ennemis, tu brises les dents des méchants. À l'Éternel est le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. » David prie que Dieu lui accorde la victoire. N'oublions pas que David revient encore à la situation militaire. À cette époque, on sait, la victoire militaire devait passer par Dieu. Dieu devait combattre avec son peuple pour cette victoire, pour celle-ci. La force humaine n'était jamais assez. La raison pourquoi il utilise l'expression « Lève-toi, Éternel » vient de Nombre 10, 35. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que ton ennemi soit dispersé. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Et quand on la reposait, il disait « Reviens, Éternel, ô myriade des milliers d'Israël. » Nous pouvons voir que, bien que l'arche ne suivait pas toujours la guerre, la théologie a continué dans le temps. Et cette expression est restée. Si Dieu ne se levait pas pour partir avant eux, la guerre était déjà perdue. Si Dieu se levait, la victoire était déjà accomplie. Et voilà pourquoi il demande à Dieu de se lever et de le sauver. Ensuite, David donne une expression assez particulière. En tout cas, pour moi, c'était une expression un peu quasi violente. Je me suis dit, bon, des fois, dans l'Ancien Testament, on voit des expressions comme ça qui... ça nous surprend. « Car tu frappes à la joue tes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Bon, ne vous levez pas tout de suite pour aller régler vos problèmes avec d'autres en leur cassant les dents. S'il vous plaît, gardons-nous une petite gêne pour l'instant. On va essayer de voir si on peut jouer avec cette phrase. Bon. Il y a un deuxième sens, évidemment, à cette expression. Premièrement, tu frappes à la joue tous tes ennemis. L'expression veut dire qu'une personne a insulté très méchamment une autre. Et ceci, on peut le voir dans 1 Roi 22, on peut le voir dans Job 16 et dans Lamentations 3. Pourquoi David se sent-il insulté? Bien, ça vient du verset 3. Où ses ennemis ont fait croire que l'Éternel avait abandonné David. Alors il demande que ce soit eux qui soient insultés. Deuxièmement, il va également un peu plus loin. Tu brises les dents des méchants. Encore une expression qui pourrait être prise au premier degré de façon assez violente. On s'entend. Mais nous avons une certaine situation dans la Bible qui pourrait supporter, malgré que ça pourrait être supporté dans cette façon, il y a un deuxième sens. Il reste que le but est plutôt de mener au silence le discours des ennemis prononcé dans le verset 3. David sait que l'Éternel ne l'a pas abandonné. Il le sait. Il l'affirme, il a confiance. Et nous arrivons à la fin du chapitre. qui va terminer en beauté, en force et en majesté. À l'Éternel est le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Encore une fois, il y a deux niveaux. Le premier est évident. Celui que David est poursuivi par Absalom, mais il redonne la victoire à Dieu. Rappelons-nous que le mot « salut » vient du mot hébreu « Yeshua », qui porte différentes possibilités de traduction. Donc, « salut » et « victoire » dans ce cas est très bon. « Victoire » pour remettre celle-ci à l'Éternel et « salut » pour s'étendre dans la prochaine phrase. « Que ta bénédiction soit sur ton peuple. » Même dans un moment difficile, David prie pour tout le peuple. Il veut que la volonté de Dieu s'accomplisse pour que tout le peuple soit béni. Lorsque j'ai de la difficulté, est-ce que je prie avec foi afin que dans ma faiblesse, Dieu bénisse toute la communauté de l'Église? Quand même, David est un exemple. Il connaît bien son Père céleste. Il sait que la bénédiction ne peut venir que de lui. Avant de conclure, il y a un petit bijou que je veux faire ressortir. Le mot qu'on a utilisé, c'est le mot « Yeshua ». Peut-être que vous l'avez vu ou peut-être que vous ne l'avez pas vu. Pas grave, on va le regarder ensemble. C'est ça qui est intéressant. Dans notre texte, deux fois, le mot « Yeshua » est utilisé. Rappelez-vous que ce mot porte la signification de « salut ». Ce texte n'est pas nécessairement un texte preuve, un « proof text » qu'on appelle en anglais. Mais je vois quand même quelque chose de très intéressant. Comme, donc, qu'est-ce que c'est un proof text ou un texte preuve? C'est un texte qu'on utilise pour montrer une prophétie qui passe de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. Donc, j'ai pas souvent utilisé ce texte comme pour montrer, mais quand même, Yeshua, c'est le nom que l'ange donne à Jésus dans Luc 1, 31. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et encore dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant, le mot Yeshua est un mot en hébreu. Comment est-ce qu'on se transporte au Nouveau Testament écrit en grec? Là, vous le voyez. C'est le mot qui est utilisé pour dire Jésus. Donc, ce mot qu'on voit dans le Nouveau Testament a sa racine dans l'Ancien Testament comme Yeshua. Donc, notre passage de psaume 3 fait deux allusions à Christ. La première, dans le verset 4, « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Cette expression parle que Christ sera notre délivrance, comme nous l'avons mentionné dans Luc 21. Nous pouvons lier au fait que Jésus est celui qui est le salut, car il est celui qui nous sauve de nos péchés, comme nous avons vu dans la prophétie de Matthieu 1, 21. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Nous pouvons venir à Dieu pour lui apporter nos tristesses et nos difficultés. Comme David, nous devons être confiants qu'il va répondre. Il va répondre pour sa gloire, pour que son peuple soit béni. Je sais qu'il faut pas oublier que nous prions et que à qui nous prions, c'est Yeshua. Celui qui sauve, pas juste de nos difficultés, mais avec bien plus d'importance, à celui qui nous ôte le péché, qui pardonne nos péchés, afin que chacun d'entre nous sache où il passera l'éternité. Est-ce que c'est la façon que vous priez? Est-ce que c'est la façon que vous vous approchez de Dieu? Est-ce que c'est la façon dont vous vous approchez de votre Papa Céleste? Si vous vous approchez pour lui donner une liste, vous manquez le but. On voit David qui s'approche de Dieu pour dire comment il sent. Mais tout de suite, il s'en remet à Dieu. Il fait confiance qu'il répondra à ses prières. J'espère que vous avez la même attitude, que vous sachiez qu'il va répondre à vos prières en le remerciant pour la plus grande chose qu'il a faite pour vous, celle de pardonner vos péchés. J'aime ce passage car il me rappelle que mon Papa Céleste est mon Sauveur et qu'il répond à mes prières. Amen.